Bonjour, savez-vous qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas que des cités et des rues? Ici, au nord de Paris, on fait pousser des framboises, des tomates, de la ciboulette, des tonnes et des tonnes de fruits et légumes.
Nous, on ne le savait pas. On a découvert que ces aliments poussent dans des fermes hors champ, des fermes urbaines.
Nous sommes les élèves de la 4e une du collège Myriam Makeba à Aubervilliers et pendant plusieurs mois, on a participé à une résidence Agora.
On s'est mis dans la peau des journalistes pour faire des reportages dans deux fermes urbaines de Saint-Denis. Elles s'appellent le 6B et Zone Sensible.
Ces fermes urbaines sont très récentes. Elles sont situées sur ce que l'on appelait la plaine des Vertus.
C'était une zone au nord de Paris dédiée au maraîchage, des hectares et des hectares de cultures qui servaient à nourrir tout Paris. Ensuite, ces champs ont été remplacés par des usines qui ont beaucoup pollué le sol de la Seine-Saint-Denis. C'est dommage quand même.
Quand les champs et les jardins ont disparu, les habitants ont perdu la nourriture locale et pas chère. Ils ont aussi perdu leur savoir-faire et oublié comment jardiner.
Heureusement, grâce aux fermes urbaines, la nature revient en ville et la nourriture redevient locale. Allez, venez avec nous découvrir 1000 choses. Le maraîchage, l'apiculture, les animaux et toutes les personnes investies pour un avenir durable.
Fermez les yeux et imaginez. On marche sur un grand boulevard. Il n'y a que des voitures et pas de piétons. Et d'un coup, une pancarte où est écrit « Zone sensible ».
On pousse la porte et on découvre une immense ferme entourée de grands bâtiments. On n'imaginait pas qu'elle soit aussi grande. Cette ferme, c'est la dernière trace de la plaine des Vertus. Le seul endroit où le maraîchage a été préservé.
La ferme urbaine Zone Sensible s'est installée là en 2017, quand le maraîcher Rinecker Santé a pris sa retraite.
Bonjour.
Alors déjà bienvenue, hein. Bienvenue à la ferme urbaine de Saint-Denis.
Franck Montier est responsable du maraîchage. Avant, il était paysagiste, c'est un homme passionné par l'agriculture et par l'apiculture.
Ça représente 3 hectares 7 et ces 3 hectares 7 sont divisés en deux lots. Vous avez deux acteurs sur cette ferme, vous avez la ferme de Galie qui est derrière vous là, qui eux vont travailler sur tout ce qui est démonstrateur de culture hors sol et de culture traditionnelle raisonnée. Donc ils vont travailler comme ça. Nous ici, on va travailler sur tout ce qui est culture, de toutes les cultures. Donc on va travailler sur l'apiculture, on va travailler en permaculture et on va travailler sur la culture. Donc vous avez plein d'œuvres d'art qui se baladent dans le site.
Ils se suivent, ils se suivent, ils font la queue leu-leu.
Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a des petits canards. Ces canards, c'est des canards coureurs, ils ne savent pas voler. Ils sont en H24 en liberté. Concrètement, leur job ici, c'est de manger les limaces. Donc c'est des animaux que j'essaye de justement qu'ils gardent leur côté un peu sauvage. On est en milieu urbain, hein. Donc on a un petit aéroport juste à côté. Je vais vous demander de ne pas aller les courser, de ne pas essayer de les attraper. Les poules, c'est pareil. Vous avez 4 poules qui se baladent ici sur le site, qui sont aussi en liberté. Et les poules, vous allez voir, elles vont venir nous voir. Les canards, un peu moins, parce qu'ils sont un peu plus indépendants. Puis là, c'est la période des amours, quoi.
Là, c'est grosse bagarre.
C'est les mâles qui se battent.
Tu vas avoir des problèmes,
j'imagine bien.
On s'éloigne des canards pour interroger Franck sur son métier. Mais en fait, c'est quoi un maraîcher ?
Alors un maraîcher, ça vient d'un terme étymologique du quartier du Marais de Paris. Avant, le quartier du Marais, c'était un marécage. Un marécage, les gens avaient faim, ils ont drainé le terrain pour pouvoir faire leur propre culture et c'est comme ça qu'on les a appelés les maraîchers. À la différence d'un agriculteur, le maraîcher va être quelqu'un qui va te faire de nombreuses cultures par an. C'est-à-dire qu'on va faire 15 cultures différentes, alors qu'un agriculteur, un paysan, qui lui va faire plutôt des très grandes cultures, a besoin d'énormément de surface, il va plutôt cultiver une à deux cultures par an maximum pour pouvoir faire, l'exemple, ça va être du blé ou du maïs. Un maraîcher, lui, il va faire des radis, il va faire de la salade, il va faire du chou, il va faire plein de choses qui vont être des cultures, ce qu'on appelle des cultures rapides.
Qu'est-ce qui faisait pousser le maraîcher qui a pris sa retraite ?
L'ancien maraîcher qui était ici, lui, c'était ce qu'on appelait ici le roi de la salade. Ici, on avait comme surnom le parking à salade. Il cultivait entre 500 000 et 1 million de salades par an. Il ne faisait absolument que de la salade. Que de la salade, pourquoi ? Parce que c'est un modèle écrit et appris justement à l'après-guerre. C'est un modèle de culture intensive en monoculture, c'est-à-dire qu'il ne fait que de la salade pour pouvoir en produire le plus possible. Parce que pour pouvoir faire cette culture en intensif et de monoculture, il va falloir pousser la nature, aller contre la nature. Pour ne pas que les limaces viennent manger les salades, il va falloir utiliser de la chimie. Concrètement, Rinecker Santé a appris à travailler comme ça, il fallait nourrir le peuple. Et nous, on est plutôt là actuellement à faire un peu marche arrière. Ici, nous, on va travailler avec la nature. Le but n'étant de recréer ce qu'on appelle un écosystème et donc un équilibre. C'est-à-dire qu'il y ait un petit peu de limaces, mais pas trop.
Qui veut planter ?
Je vous ai sorti un seau avec des gants. Vous mettez impérativement des gants. Ok. Ensuite, il va y avoir donc une autre équipe qui va arracher. Donc on commence à faire de la place pour pouvoir commencer à planter d'autres choses. Tous ces choux qu'on va venir arracher, on va les mettre dans la brouette. Et cette brouette, on va aller la vider dans le compost.
Nous ne faisons pas que des interviews, nous mettons aussi la main à la pâte.
Cette terre est polluée à cause du plomb et de tous les moyens de transport qui nous entourent.
Il faut savoir, comme vous avez pu l'entendre, on a l'aéroport du Bourget qui fait qu'on est survolé par des avions constamment. On a Roissy qui n'est pas si loin que ça, on a une nationale, on a quelques barrières naturelles, on a une autoroute A1, on a l'autoroute A86, on est en milieu urbain. On a des centrales d'incinération qui ne sont pas très loin. Donc cette pollution vient finir par se poser sur le sol et venir polluer le sol. Quand nous, on a commencé à travailler, à mettre nos gazons, à mettre nos petites plantes, sur un hectare, nous avons trouvé 3 vers de terre. Donc on était tombé sur un lieu qui était certes très très riche pour nourrir des végétaux, mais au niveau biodiversité, il n'y avait rien du tout. Donc fort de ce constat, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé différemment, on ne travaille à 95% ici à la main, donc du coup, les vers de terre, ils sont tranquilles et ils arrivent à se reproduire. Et cette pollution, tout doucement, par nos techniques de ne pas retourner les sols, nous sommes en pleine diminution, au bout de notre cinquième année, ça commence à diminuer les taux de plomb, parce que nous ne retournons pas les sols et on n'utilise pas de culture qui capte le plomb. Donc le sol, tout doucement, est en train de se dépolluer. On s'est très vite aperçu que le plomb était capté par quasiment tous les légumes d'hiver, c'est-à-dire les légumes qui vont rester très longtemps dans la terre, c'est-à-dire le poireau, c'est-à-dire la betterave. On a aussi certains légumes feuilles qui, eux, vont travailler l'hiver, c'est-à-dire les épinards, la mâche, des légumes qui vont capter le plomb. Et on a aussi tous les aromatiques. Les aromatiques ne sont pas dans le champ. Les aromatiques sont plutôt sur le parking. On a fait des cultures, ce qu'on appelle des cultures hors sol. On a pris des palettes, on a pris des planches et on a ramené de la terre qui n'était donc pas polluée au plomb et pour pouvoir permettre la culture de ces aromatiques. Car les aromatiques, en fait, se nourrissent de ce plomb. La salade laitue, nous ne pouvons pas la faire ici parce que la laitue est une variété de salade qui, elle, va capter le plomb. Donc on va plutôt faire de la batavia, on va plutôt faire de la feuille de chêne, on va plutôt faire de la roquette, on va plutôt faire du mizuna. On va faire plein d'autres cultures. On va faire aussi des petits fruits parce qu'on a besoin aussi d'avoir des arbres pour... faire venir en fait les animaux, surtout les oiseaux. Donc on a planté des pommiers, on a planté des poiriers, des pruniers, des abricotiers, des cassissiers, des framboisiers. Voilà, essayer d'avoir le maximum de diversité.
Pour avoir plus de diversité, on plante des fleurs, des soucis, et une stagiaire nous apprend à protéger les plantations.
Il faut mettre de la paille à côté des soucis que vous avez plantés tout à l'heure.
C'est lourd ça ! Jamais vu ça ! C'est une dinguerie. Ah donc tu sais, le but c'est mettre sur les plantes. En fait moi je mets et lui il entoure les plantes. Oh. Là je suis en train de mettre de la paille pour je crois que c'est pour le froid ou quelque chose comme ça.
Madame, ce qu'on a fait ça sert à quoi?
Alors on met de la paille dans les basses-pieds là. Ça empêche les mauvaises herbes de pousser en gros. Les plantes, pour pousser, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin d'humidité, elles ont besoin de terre, mais si tu coupes la lumière, elles vont pas pousser. C'est pour ça qu'on met de la paille ici, et après on récupère la paille qui s'est dégradée là, et on la remet sur les légumes, et ça fait comme de l'engrais.
D'accord.
Voilà. Et là, quand on en a mis sur les plantes, c'est parce que aussi la paille, c'est un isolant. C'est-à-dire que ça isole du froid, et comme il fait encore un petit peu frais, parfois la nuit, si tu mets un tout petit peu de paille, même en surface, sur tes plantes, ça les tient au chaud, si tu leur mets une couette, quoi.
Et est-ce que vous utilisez des pesticides ?
Alors, tout ce qui est produit phytosanitaire, que ce soit insecticides, frongicides, désherbants et tout ça, ici, on n'utilise strictement rien. Strictement rien, c'est-à-dire, mais vraiment rien de rien. Ici, moi, ma trousse à pharmacie, ça va être tous les purins. C'est-à-dire que je vais utiliser des plantes que je vais faire fermenter, macérer. Je prends l'exemple de l'ortie. Je vais récolter les orties que je vais mettre en fermentation dans un seau. Que si je l'utilise en pur, ça va être un désherbant parce que c'est beaucoup trop fort. Et suivant la dilution à laquelle je vais faire, ça va être un engrais sur les feuilles, un engrais sur les racines. Je vais pouvoir soigner le fait que les plantes soient attaquées par des champignons ou par des insectes. Si j'utilise aussi beaucoup la consoude, qui va, elle, par contre, stimuler la floraison des plantes. Si on stimule la plante à faire des fleurs, on aura beaucoup plus de fruits. Voilà mes remèdes de grand-mère, on va dire.
Pourquoi vous tenez tant à ce que ce soit une ferme écologique ?
C'est ce qui colle le plus à la nature de l'homme. J'ai envie de dire, quand on va au marché, quand on se balade dans un marché, qu'on va acheter des légumes, pourquoi sur les étals des marchés, on a des légumes bio? Et pourquoi on marque tomate bio? Pourquoi on ne met pas de tomate chimique? Parce que le bio, concrètement, c'est naturel. Donc, si c'est naturel, ça veut dire que c'est une tomate normale. C'est plutôt la tomate chimique qui est pas normale. Pourquoi je tiens tant à ne pas utiliser de produits chimiques? C'est qu'une molécule de chimie, de produits phytosanitaires, ne disparaîtra jamais. C'est-à-dire qu'on va venir polluer nos sols, C'est un peu à l'image de... Voilà, je vais y aller fort, c'est concrètement les produits chimiques, c'est comme de la drogue. C'est-à-dire que dès l'instant où c'est que vous avez mis la main dedans, au début, il faut savoir que moi, quand j'ai travaillé dans l'agriculture, j'ai travaillé dans le paysage, les produits chimiques, on me les donnait. On me disait, Franck, mets ce désherbant, tu vas voir, c'est magique. Et dès l'instant où c'est qu'on vous les a donnés, vous avez déstabilisé votre milieu. Le milieu était équilibré, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu de limaces, il y avait un petit peu de mauvaises herbes, mais il y avait aussi nos plantations, tout ce petit monde était harmonieux, chacun avait besoin de chacun, ce qui permettait aussi de faire de la cohésion. Dès l'instant où c'est qu'on fait une rupture avec un produit chimique quelque part, concrètement on déstabilise tout le milieu, dès l'instant où c'est que vous avez déstabilisé tout le milieu, et ben après ben vous êtes constamment obligé de l'utiliser. Donc après on vous le vend une fortune et puis vous êtes tenu puisque vous ne pouvez plus faire marche arrière. Tous les sols sur la planète sont pollués à la chimie humaine. Donc il y a un moment il faut dire stop, on a été trop loin, nos eaux sont toutes polluées, donc pas de chimie.
Est-ce que c'est plus difficile de faire pousser sans pesticides?
Alors, ce n'est pas plus difficile, ça demande beaucoup plus de travail, mais surtout beaucoup plus d'attention. Concrètement, ici, je fais au minimum 5 fois le tour du champ, tous les jours, pour observer. C'est tout bête, mais cette observation, les plantes nous parlent, les insectes nous parlent. Après, le plus difficile étant d'avoir cette oreille et cet œil pour voir la demande et ce qu'il va falloir pouvoir faire pour justement gérer cet écosystème.
Tout à l'heure, j'ai pu apercevoir une petite mare et je voudrais savoir si c'est pour les canards ou bien...
C'est une vraie question, dans le sens que cette mare n'est pas faite uniquement pour les canards. Elle n'a pas été à l'origine faite pour les canards. En fait, quand on fait de l'arrosage, on va puiser dans la nappe phréatique. Dans la nappe phréatique, l'eau est à 12-13 degrés. Dehors, il fait 40. Quand on arrose directement, bah les plantes, elles n'aiment pas ça. Hein. Ça fait un choc de température. C'est comme si, bah voilà, là, on nous jetait un gros seau d'eau. Même si l'eau est à 15, c'est pas très agréable. Donc du coup, ce que je fais, c'est qu'on va pomper l'eau de la nappe phréatique. On va la stocker dans ce bassin. Elle prend la température ambiante. Ce bassin a aussi pour but de récupérer les eaux qui coulent sur les allées béton. Et quand nous, on lave nos légumes, toute l'eau revient dans ce bassin. Les canards s'éclatent dedans. Ils font pipi, ils font caca dedans, ce qui va être de la nourriture pour les plantes. Du coup, après, je pompe dans cette mare et je le réinjecte dans le réseau et je vais arroser mes légumes à ce moment-là, quoi.
Il y a un gros réseau, là, sous nos pieds, de tuyaux qui vont dans tous les sens. Et selon les vannes qu'on ouvre, on peut arroser tel endroit ou tel endroit, selon qu'il pleuve ou pas. Là, cet hiver, il a très peu plu. Et du coup, bon, on se limite à pas arroser pour l'instant, mais les sols sont très secs. Là, c'est du goutte à goutte. Tous les systèmes de goutte à goutte sont les plus économiques en eau. Et là, je ne sais pas si vous avez vu les petits tuyaux avec des bulles rouges.
Ah voilà, ça.
Ça fait là, ça arrose. Là, ça, ça arrose à 7 mètres.
Ça fait combien, tous les combien de temps?
Tous les combien de temps? Ça dépend. Là, cette semaine, par exemple, on a juste arrosé 10 minutes ici, ces plantes-là, parce qu'on venait de semer des choses. Replanter des choses.
Mais il y en a tous les 7 mètres à peu près.
À peu près, oui. Quand tu es agriculteur ou maraîcher, un bon moyen de lutter contre le réchauffement climatique, c'est de planter des arbres. Vous avez déjà entendu ça? Parce que l'arbre, il va capter du carbone, donc du CO2, donc il aide ça.
Ça relâche de l'O2?
Oui, aussi. On peut planter énormément d'arbres sur une petite surface comme ça. Et du coup, là-dessous, l'été, bah, il fera bon, il fera pas trop chaud. Parce que la plupart des légumes qu'on cultive nous maintenant, vu les étés qu'on a actuellement, ils crament en fait les légumes, il fait trop chaud. Même une tomate au-dessus de 37 degrés, elle arrête de pousser, 35.
Ah ouais.
Vous voulez qu'on aille voir le poulailler?
Oui.
Allez-y. Donc ça c'est notre poulailler, ici on a 4 poules, et ça c'est un poulailler mobile. C'est-à-dire que de temps en temps, toutes les semaines, on le déplace. Et ici on a mis le poulailler il y a une semaine, et les poules quand elles sont à l'intérieur, elles grattent la terre. Elles cherchent des vers de terre, elles cherchent des graines. Et du coup, elles désherbent, elles enlèvent tout ce qu'il y a. Et une fois qu'on aura fait toute la zone, on aura juste besoin de passer un coup de grelinette. C'est un outil qui permet de décompacter la terre, parce que bon, ça tasse quand même un peu. Et ça sera bon pour replanter dedans.
Pourquoi cette ferme urbaine s'appelle zone sensible?
zones sensibles, parce que souvent, quartier nord de Marseille, le 93, on a toujours un terme un petit peu galvaudé en disant que ce sont des zones sensibles. Mais si on prend l'étymologie du mot sensible, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est quelque chose qui fait appel à ses sens. Et en général, une zone sensible, ça veut dire que c'est fragile. Donc c'est une zone qu'on devrait justement prendre soin et non en avoir peur.
Est-ce que les habitants du quartier viennent ?
Alors, ça a été les plus difficiles à faire venir. Tous ceux qui nous entourent, qui sont tout autour, dans les tours justement, qui sont tout autour de chez nous, ont été les plus difficiles à faire venir. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'en fait, cette terre a été interdite d'accès pendant... ça n'a jamais été autorisé de pouvoir venir. Le Covid a fait que, bah, comme on ne pouvait pas aller bien loin, bah, les gens venaient quand même ici, justement, aux portes de chez eux, en bas de chez eux. Et on s'est arrangé aussi à faire venir des associations qui faisaient de la musique pour pouvoir faire des concerts, des pièces de théâtre, des choses comme ça, qui fait que, bah, justement, Paris relevé, on a plein de gens, justement, tous nos voisins, beaucoup de nos voisins viennent ici. Ça nous a pris 2 ans.
Les habitants du quartier peuvent voir pousser 230 variétés de fruits et légumes. En moyenne, une à deux personnes aident Franck à cultiver 3 500 m². Il récolte 4 à 5 tonnes chaque année.
Nous rencontrons Lucas Vacher, un autre membre de zone sensible, chargé de la distribution des fruits et légumes.
Est-ce que vous vendez ou vous donnez les fruits et légumes récoltés ici ?
Alors, on fait les deux. Mais la majorité des légumes qu'on fait ici sont donnés pour les habitants du territoire. C'est environ 80% des légumes qu'on produit qui sont pour le don alimentaire, les gens qui sont dans le besoin. Et le reste, donc 20% qui représente une petite partie, sont vendus à des restaurants à Paris ou en Seine-Saint-Denis.
Qui a eu l'idée des paniers solidaires ?
Cette idée-là, elle a été motivée par la crise du Covid beaucoup. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le besoin en Seine-Saint-Denis et qui avaient besoin d'être aidés sur l'alimentation, qui n'arrivaient pas en fait à acheter assez de nourriture pour se nourrir. Et on a commencé du coup à donner une partie de ce qu'on produisait pour ces gens-là via des associations qui distribuent les dons alimentaires et les légumes aux personnes dans le besoin.
Comment organisez-vous les dons des fruits et légumes ?
Alors, nous, on travaille avec ce qu'on appelle une régie de quartier. Une régie de quartier, ce sont des gens, c'est une structure qui a des vélos, ce qu'on appelle des vélos cargo, donc des vélos avec des cagettes, enfin qui permettent de porter des cagettes de légumes. On distribue à cette structure nos légumes et cette structure, elle, s'occupe ensuite de distribuer aux associations. À vélo, puisqu'on agit dans une logique environnementale, on souhaite éviter au maximum les émissions de gaz à effet de serre, et le vélo, c'est le moyen le plus écologique pour le faire. Et aussi, puisqu'on est dans une démarche de proximité et qu'on n'a pas forcément besoin d'être en voiture pour aller livrer à Saint-Denis, à Pierrefitte, à Stein, à moins de 5 km.
On trouve quoi dans ces paniers ?
On trouve des légumes principalement. En général, ça se fait beaucoup en fonction de la saison, donc de la production de légumes et des espèces de légumes qu'on produit en ce moment à zone sensible, enfin sur le moment.
Et c'est combien de kilos ?
Alors, ce que je peux dire, c'est que sur une année, on distribue entre 3 et 4 000 kilos.
Pour un panier, on peut nourrir à peu près combien de personnes ?
Ça varie très sûrement en fonction des familles, des gens qui viennent parfois tout seuls, des gens qui viennent parfois avec leurs enfants. Et les associations font ce travail d'adapter la taille des paniers, la quantité aux personnes qui viennent et à leurs besoins.
Est-ce que les personnes démunies auront un jour le droit de manger souvent des fruits et des légumes biologiques ?
Bien, on l'espère. En tout cas, nous, c'est dans cette démarche qu'on travaille ici à Zone Sensible pour montrer que c'est possible de produire justement des légumes biologiques à des coûts qui ne sont pas plus élevés que les légumes non biologiques et que c'est possible de le faire. Et donc, potentiellement, oui, j'espère en tout cas que tout le monde pourra un jour se nourrir avec des légumes biologiques.
Qu'est-ce que les gens qui consomment vos légumes en pensent ?
On a plutôt des bons retours, en tout cas de la part des restaurateurs, ils viennent ici pour la qualité des légumes, parfois aussi pour leur rareté, puisqu'on trouve ici des choses qu'on ne trouve pas dans toutes les fermes et encore moins en Île-de-France. Donc les gens les aiment, nos légumes.
Et ce n'est pas Franck qui va dire que ces fruits et légumes ne sont pas bons ?
Tout ce qui est récolté la veille pour être livré le lendemain, ne passe pas en chambre froide. Au niveau qualité des retours que je peux en avoir, et moi-même qui mange mes légumes, On est en très très bonne qualité puisque surtout on ne passe quasiment rien en chambre froide. Il faut bien comprendre que lorsque vous mettez une courgette, une aubergine, une tomate dans une chambre froide ou dans un frigo, vous perdez déjà plus de 20% de la capacité nutritive qu'a l'aliment et surtout vous perdez du goût. Vous perdez quasiment 40% au niveau du goût. Le fait de ne pas les mettre au frigo permet qu'on est au top du top.
On n'a pas eu l'occasion de goûter car ce n'était pas la saison.
Zone sensible apprend aussi aux habitants à cuisiner ses légumes.
Comme il y a beaucoup d'obésité et de diabète en Seine-Saint-Denis, Zone sensible propose des ateliers cuisine pour mieux manger. C'est Clémence Cannes qui les organise.
Pourquoi vous proposez des ateliers cuisine ?
Alors parce qu'en fait, on travaille depuis 5 ans sur le territoire de Seine-Saint-Denis et en faisant un jardin en permaculture, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il serve aussi au territoire aux habitants du territoire. Et donc du coup, on a commencé à créer des ateliers de cuisine à destination des habitants du territoire. On est sur un territoire très axé sur la junk food et donc du coup, pour nous, c'est intéressant d'éduquer le territoire par rapport au bien manger.
Qui cuisine ?
Les chefs restaurateurs. Les chefs restaurateurs, donc du coup, c'est des restaurants avec lesquels on travaille, qu'on livre toutes les semaines, et donc du coup, on organise des ateliers avec eux.
Vos ateliers sont-ils ouverts à tout le monde ?
Oui. Les ateliers de cuisine sont ouverts à tout le monde à partir du moment où tu sais manier un couteau ou des ustensiles de cuisine. Donc ça va de 6 ans environ jusqu'à 99 ans.
Ces ateliers sont gratuits ou ils sont payants ?
Alors on a deux façons de fonctionner. On propose une dizaine de places qui sont payantes à des visiteurs, on va dire extérieurs. Et comme on est des partenaires sociaux, on propose aussi 10 places à nos partenaires sociaux à qui on les offre gratuitement. Ça va être des centres sociaux, ça va être des maisons de quartier, ça va être des écoles, ça va être des centres de loisirs. Et donc du coup, quand on propose un atelier de cuisine, on va proposer 10 places payantes à des visiteurs extérieurs et on propose 10 places qui sont gratuites à ces partenaires-là. Donc on leur envoie la programmation en disant ce samedi, on a un atelier de cuisine avec tel chef de tel restaurant. Et donc du coup, ils s'inscrivent gratuitement. Et pour nous, c'est important, on est une association, on œuvre pour un territoire qui est un des territoires les plus pauvres de France et on n'a pas de... Pour nous, c'est absolument pas logique de faire payer en fait ces ateliers-là. Donc on préfère les proposer gratuitement et d'ailleurs, les chefs qui participent avec nous sont pas payés ou très peu payés pour ces ateliers-là.
Et du coup, ceux qui payent, ils payent combien ?
C'est 10 euros la place. Et les ateliers durent environ 2h30. Ça se passe toujours un peu de la même façon, où en fait les participants arrivent le matin, on a une cueillette dans le champ des produits qui vont être proposés, qui vont être cuisinés par la suite. Et après, c'est un atelier durant 2 heures où le chef ou la chef explique ce qu'il va faire et il le fait avec les participants. Donc tout le monde cuisine ensemble, c'est un moment très convivial et c'est très, très sympa.
Vos ateliers, ils ont lieu quand ?
Ils ont lieu le samedi généralement. C'est de 9h30 à 12h30, 13h.
Quel type de recettes proposez-vous ?
En fait, on va faire des choses qui sont très végétales parce que du coup, on n'a pas de viande et on n'a pas de légumineuses dans le champ. Donc, on fait des choses qui sont très en raccord avec vraiment les végétaux, les légumes et les herbes aromatiques. On fait des tartines végétales, on fait des soupes, on peut faire de la cuisson de légumes, de la fermentation. Parce qu'on est sur un territoire où il y a 135 nationalités différentes en Seine-Saint-Denis. Et pour nous, c'est important de pouvoir montrer toute l'étendue des différentes origines qu'on peut avoir sur le territoire. Donc ça va être soit de la cuisine africaine, soit de la cuisine vietnamienne, mexicaine et compagnie. Donc c'est très, très diversifié.
Que faites-vous des épluchures, des légumes ?
Soit on les cuisine aussi, soit on les met directement dans notre compost. Et ça va être par exemple d'utiliser la carotte et de montrer qu'en fait on peut utiliser la carotte de A jusqu'à Z. Donc on peut utiliser la carotte, on peut utiliser les fans pour faire un pesto, on peut utiliser aussi les épluchures pour faire des petites frites, des choses comme ça.
Utilisez-vous des fleurs ?
Oui, les fleurs comestibles, on les utilise fraîches, on ne les cuisine pas parce que du coup, elles perdent toute leur saveur et ça permet de donner un peu d'épices, un peu d'aromates au plat qu'on va cuisiner et de décoration aussi parce que c'est très esthétique les fleurs.
En quoi cette activité est bonne pour la planète et pour ses habitants ?
Parce que ça leur permet de savoir qu'en fait, on peut avoir des très bons produits qui viennent directement sur leur territoire, limite juste en face de chez eux. Et donc du coup, ça leur permet de savoir aussi qu'en fait, en ayant des légumes qui sortent de la terre qui est juste en face de chez eux, ils peuvent faire la même chose dans leur jardin. Et donc du coup, ça permet de créer une activité beaucoup plus locale que d'aller chercher directement en supermarché, de se rendre compte qu'on a un avocat qui vient de l'autre bout du monde.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Elles sont les poules, moi j'ai peur.
Elles sont loin encore.
Vous avez un rucher qui est dans le silo qui est à droite. Il y a une petite porte. Vous pouvez très bien aller jeter un œil. Comme je vous disais, les poules viennent nous voir. Vous n'avez pas besoin de courir derrière.
Ouais, des pincettes.
C'est une cocotte, t'inquiète pas. On va voir les abeilles.
Franck n'est pas seulement maraîcher, il est aussi apiculteur. Il y a 7 ruches à zone sensible.
Cette ruche ressemble beaucoup à l'habitat naturel d'une abeille. C'est-à-dire que normalement les abeilles elles vont squatter dans les troncs d'arbres. Les troncs d'arbres qui sont morts, c'est là où c'est qu'elles vont s'installer. Et donc c'est comme ça qu'on va imiter ces troncs d'arbres pour pouvoir les utiliser.
Pourquoi avez-vous installé des ruches ?
Alors, on a installé des ruches ici sur la ferme pour pouvoir créer de la biodiversité et surtout qu'elles puissent polliniser. Pour qu'elles puissent se nourrir, elles vont manger le nectar des fleurs. Elles vont polliniser beaucoup plus rapidement nos légumes. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir à faire un fruit, donc la plante va faire une fleur. Les plantes sont sexuées. Il faut un mâle et il faut une femelle. Pour avoir ce fruit, il faut qu'il y ait fécondation. Fécondation, la rencontre entre le pistil mâle et la pistil femelle. Les plantes ne savent pas le faire toutes seules. Alors il y a certaines espèces qui arrivent à se débrouiller à faire ça avec le vent, notamment le noisetier, le maïs, des choses comme ça. Mais beaucoup de plantes ne savent pas le faire. Donc du coup, elles vont utiliser l'art des abeilles. Les fleurs vont produire du sucre, un sirop très parfumé, très odorant pour attirer les abeilles. Les abeilles, elles, très gourmandes, vont rentrer dans la fleur et vouloir manger tout ce nectar. Et elles vont faire de fleur en fleur. Donc, admettons, elle va tomber sur la première fleur, ça va être une fleur femelle. Et ben pendant ce temps-là, pendant que l'abeille est en train de se nourrir du nectar de la fleur va lui mettre plein de petits pollens sur le dos. Quand l'abeille va changer de fleur, elle va rencontrer un pistil mâle et va mettre en contact le pistil femelle, le pistil mâle, qui va permettre d'avoir le fruit.
Pourquoi les abeilles font-elles du miel ?
Elles font du miel pour leur propre consommation. C'est-à-dire que la saison des fleurs est très très courte. La saison où c'est qu'on a des feuilles aux arbres, c'est grosso modo 6 mois. Mais pendant 6 mois de l'année, il n'y a plus rien. Donc elles ne peuvent plus manger. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles créent du miel grâce à ce nectar. Le nectar qu'elles prennent aux plantes, elles vont le mâcher longuement, le mettre dans ce qu'on appelle des petites alvéoles. Elles vont faire des mouvements d'ailes pour enlever toute l'humidité. Et elles vont créer de la cire pour fermer hermétiquement ce petit cube où c'est qu'elles auront gardé le miel. Et quand elles ont faim au mois de décembre, où c'est qu'il fait moins 5 dehors, qu'elles ne peuvent pas sortir de la ruche, parce que de toute façon déjà il n'y a rien à manger dehors, elles ont juste à ouvrir cette petite trappe et se nourrir elles-mêmes.
Comment se reproduisent-elles ?
Vous avez la reine. La reine, c'est la seule qui va pouvoir créer des petits, qui va pouvoir pondre. Donc elle est 3 fois plus grosse qu'une abeille classique. Elle va sortir de la ruche, elle va grimper dans le ciel. Et à ce moment-là, tous les bourdons vont s'en apercevoir. Et tous les bourdons vont venir féconder la reine. Une fois qu'elle a été fécondée, elle va retourner dans sa ruche. Ensuite, une fois que la reine va avoir pondu, donc une larve, l'abeille va naître. Son premier rôle, son premier job, ça va être de nourrir les autres. Une fois qu'elle a nourri les autres, ça va durer quelques jours, elle va devenir nettoyeuse. Elle va balayer constamment, enlever toutes les déjections des abeilles qui fréquentent la ruche. Son autre rôle, ça va être gardienne. Elle va être toujours devant la ruche pour protéger des intrus. C'est-à-dire qu'un gros ours ou nous, quand on arrive, c'est elle qui va venir nous piquer et qui va prévenir toute la colonie qu'il y a un danger. Et son dernier rôle, ça va être ce qu'on appelle pollinisatrice. Donc elle arrive à sa fin de vie. Et elle va faire que des allers-retours entre la ruche et les fleurs pour ramener à la ruche le maximum de nectar. Donc grosso modo, une abeille en saison, du printemps jusqu'à l'automne, va vivre en moyenne 30 jours.
Est-ce dangereux de récupérer le miel des abeilles ?
Alors dangereux, tout est relatif. C'est qu'il faut prendre des précautions, donc il va falloir les enfumer avec des produits naturels, surtout principalement de la lavande, du thym pour les apaiser, et surtout aller récolter le miel lorsque c'est le plus adéquat. C'est-à-dire que s'il se met à pleuvoir, toutes les abeilles sont dans la ruche. Et surtout, comme elles ne peuvent pas sortir pour aller se nourrir, elles ne sont pas très contentes. Donc c'est surtout pas à ce moment-là qu'il va falloir y aller. Et puis surtout, y aller toujours avec douceur. Pas de bruit, ne pas être parfumé, ne pas être stressé. Plus on est stressé, plus l'abeille va être stressée, donc plus elle va être agressive. Il faut savoir qu'une abeille, quand elle pique, elle meurt. Donc elle n'a aucun intérêt à venir nous attaquer. Donc si elle nous attaque, en fait, c'est vraiment parce qu'on l'a embêtée.
Et c'est tous les combien de temps que vous faites ça ?
Alors, la récolte de miel se fait 1 à 2 fois par an. La grosse récolte, ça va être au mois de juillet. Nous, on va faire les gros ours, on va récolter le miel. C'est-à-dire qu'on va prendre les 3/4 du miel et on leur en laisser un petit peu pour qu'elles puissent survivre. On va filtrer ce miel pour éviter d'avoir toutes les petites impuretés et après le mettre en pot.
Combien de pots de miel vous produisez ?
Une ruche, si tout va bien, on a pu faire en moyenne sur une ruche entre 20 et 25 kg de miel par ruche. Compte tenu du changement climatique qu'on a actuellement, Notre moyenne actuelle de récolte de miel par ruche est plutôt à 8-10 kg maximum. Ce n'est pas notre principal rucher ici. Le principal rucher de l'association se situe sur le toit de l'hôtel de ville, où c'est qu'on a plus de 70 ruches.
Et quelle différence y a-t-il entre le miel d'une ferme urbaine et celui d'une ferme à la campagne ?
Il n'y aura pas de différence, dans le sens où c'est que vous avez plein de variétés différentes de miel. C'est plus dû à ce qu'elle va se nourrir. La fleur dans laquelle elle va aller pour puiser son nectar, qui va donner les différences de miel. Ce n'est pas forcément l'endroit. L'avantage qu'on a en ville, ça va être qu'on va avoir des miels toutes fleurs ou des miels assez, principalement sur du miel d'acacia et de tilleul dans nos régions, parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont comme ça.
Qui mange le miel que vous produisez ?
Alors, le miel qui est produit par les abeilles est vendu alors à différents endroits. On va en déposer des pots à l'office du tourisme, on va déposer des pots dans différents musées sur Saint-Denis, et quand on fait tous les événements ici avec le public, c'est là où il est vendu. Donc il va un petit peu partout. C'est le miel, il a été nommé le miel béton.
Ah, pourquoi il s'appelle le miel béton ?
Alors, le miel béton a été donné, ce nom a été donné lors d'une première dégustation, et c'est à ce moment-là où c'est qu'un enfant a eu une expression très banlieusarde en disant « Oh, mais c'est béton ton truc !» Et le miel est produit dans un milieu urbain rempli de béton, et c'est comme ça que c'est devenu le nom de miel béton.
Parmi nous, certains ont eu plus peur des poules que des abeilles.
Tu penses quoi des coqs ?
J'aime pas ça.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a donné envie d'y aller.
Nous, on y retournera.
Pour les bonnes odeurs, pour le calme, pour les activités et bien sûr pour goûter tout ce qu'on a planté.
Arrête, elle est gentille. Pourquoi t'as peur ?
C'est gentil, ça mord pas.
Ce podcast a été réalisé par les élèves de la classe de 4e 1 du collège Maria Makeba à Aubervilliers.
Dans le cadre d'une résidence Agora initiée par le département de la Seine-Saint-Denis.
Avec l'aide de nos professeurs Johanna Ngouan, Jean des Minibus et Laura L'Esprit,
des journalistes Myriam Lai, Laure Vatrin et Sylvie Bertilly de l'association Transsonore, et d'Anthony Capelli pour le mixage et l'habillage sonore.
Amara,
Ziad,
Dimitri,
Oud,
Kachichatou,
Benoît,
Adam,
Younes,
Dylan,
Django,
Founé,
Maria,
Oumou,
Shaima,
Melina,
Myriam,
Mohamed,
Ronor,
Marville
et Malik.